Merci de me faire l'honneur de demander de conclure. J'essayais depuis quelque temps, puisque tu m'en avais fait un petit signe, de me mettre à votre place. Et je me disais, bon, j'ai pensé à plusieurs choses en essayant de me dire, au fond, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête après tout ce qu'on leur a balancé? Évidemment, j'étais fort guidé par votre réaction. Et puis, je me suis dit encore, bon, au fond, qu'est-ce qu'ils attendent? Et après une mûre réflexion, je suis arrivé à la conclusion qui est peut-être fausse, c'est que ce que vous attendez, c'est que ça s'arrête. Dès lors, il faut tenir le plus grand compte. Et donc, je m'en tiendrai à un point qui m'a frappé comme suite à votre interpellation. Il faut toujours compter sur les historiens pour interpeller les autres personnes des sciences dites humaines ou sociales en leur disant, bon, maintenant quand même un tout petit peu de sérieux sur le plan de la méthode, et c'est très bienvenu. Et donc on est revenu sur la méthode, qui est quand même une question qui intéresse tous ceux qui font une thèse ici. Et il me semble qu'on avait gagné un point que M. Loyal avait directement dit au début, et puis qu'après on s'est mis à osciller, vous êtes venu un peu nous chercher, on est soi-même tombé dans le panneau, etc. Et donc, ce point me frappe et je propose d'y revenir en conclusion. Sur votre point, donc, de savoir, mais au fond, vous partez du principe que c'est la globalisation, l'État est affaibli, alors qu'en réalité, il y a des signes qui montrent qu'il n'a jamais été aussi fort, on pourrait dire aussi gros. Est-ce que c'est parce qu'il est gros qu'il est plus fort? C'est encore une autre question, mais je n'entre pas là-dedans. Je vous ai trouvé, à ce point de vue-là, un peu sévère avec Ulrich Beck. Et je voudrais dire aux gens qui sont dans la salle que même si le livre a du temps, c'est un livre qui peut vraiment vous aider, peut-être mademoiselle tout à l'heure. Donc, si je me souviens bien, le nationalisme méthodologique, c'est pouvoir et contre-pouvoir à l'ère de la mondialisation. Il est traduit en français, il est en poche dans une collection. Voilà. C'est vraiment bien et c'est très accessible. Je ne discute pas Beck ici, on le pourrait, mais ce que je voudrais dire, c'est que vous nous ramenez, par votre question tout à fait légitime, mais vous nous ramenez à la globalisation niveau 1, le droit global niveau 1. Alors qu'on avait cru acquérir assez vite dans l'après-midi qu'on était dans un niveau 2, dans un niveau méta, c'est-à-dire qu'on n'était pas en train de parler de la réalité de la globalisation. Vous nous avez demandé au fond quand elle commençait, quand elle s'arrêtera, etc. Mais qu'on était de dire qu'on prenait un point de vue global sur le droit par rapport à un nationalisme méthodologique, qui est de dire que même s'il n'y avait pas au fronton des facultés le mot droit français, il se fait que depuis un certain temps, que des études notamment de Jean-Louis Halperin permettent de cerner très précisément, en tant qu'historien, eh bien, on considère qu'effectivement, enseigner le droit en France, c'est enseigner le droit français. Et c'est aussi vrai d'un pays beaucoup plus petit comme la Belgique. Et peut-être c'est vrai aussi du Grand-Duché de Luxembourg, qui est grand comme trois bouts de pomme, et qu'alors on va aller étudier 5 ans le droit du Luxembourg avec exactement la même idée de la souveraineté. Enfin bon. Donc, et c'est ça, évidemment, pour le juriste qui est dans la salle, pour lui, il voit très très bien ce que c'est que le nationalisme méthodologique, et donc il voit très très bien la proposition qui lui est faite, et de considérer ces phénomènes du droit sans se borner à cela, sans se borner à ses frontières, en ouvrant un peu le jeu pour mieux voir et mieux comprendre. Et je dirais que sur ce plan-là, les historiens ont quand même montré l'exemple de ce qu'on a appelé le tournant global dans les sciences, qui est très loin d'être limité au droit. Les juristes n'ont pas été les premiers là-dedans. Ça n'a pas concerné d'ailleurs que les sciences humaines. On s'est aperçu que ça voulait dire quelque chose dans les sciences dures, hein, et qu'on faisait quand même de la géographie. On faisait des statistiques pour la France, hein. Le taux de la mortalité, c'est le taux de mortalité en France. Mais bon, pour savoir les ravages du tabac, on essaie de voir les ravages du tabac en France. Mais bon, et pourquoi ce qui se passe aux Pays-Bas, ça n'a rien à voir avec les ravages du tabac? C'est donc cette vision. Et on s'est mis à dire, tiens, mais c'est super intéressant l'histoire de France. En plus, vous êtes des passionnés d'histoire et des productions magnifiques. Et on s'est mis à réécrire des histoires d'un point de vue européen et d'un point de vue global. Donc on est. Mais trop peu, alors. OK. Et donc là, je crois que si on est sur le niveau 2, si on est sur le niveau 2, on est là, on peut quand même être d'accord. Alors, personne, Jean-Louis, je crois, ne dit que l'État va mourir, qu'il va mourir avant le pétrole, etc. Je ne suis pas du tout sûr de ça. Il y a quand même... Il y a un petit truc, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui s'appelle la bombe atomique. De temps en temps, on en reparle, il y a deux fous qui discutent, Rocketman, etc. Oh oui, c'est drôle. Bon, à un moment, je veux dire, un bouton, tout est changé. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, pragmatiquement, l'État a tout à fait un sens. Hein. Si c'est l'État étant la structure qui peut faire qu'un bouton est appuyé, cet État a du coup, d'un point de vue pragmatique, une réalité en termes d'effet potentiel tout à fait décisive. Hein. Évidemment, d'autres, en captant 57% des revenus produits dans une entité pour en redistribuer, etc. Et donc, je pense qu'on doit rester au niveau 2, qu'il ne faut pas tomber dans le piège qu'on fait un droit. D'ailleurs, ça a été dit par certains. Ce n'est pas le droit sans État. Ah, ben c'est Gilles qui l'a dit. Ça n'est pas... Et non, Gérard. Ce n'est pas un droit sans l'État. C'est un droit... simplement qui n'est pas centré sur l'État comme une fermeture qui nous empêche de voir le reste. Et ça, c'est d'un point de vue méthodologique, y compris dans les critères qui sont les vôtres, à mon avis, parfaitement légitime. Je termine sur l'aspect, parce que ça, on ne sera pas réconciliés ce soir sur ce point-là. Non, mais sur le deuxième, on ne va pas se réconcilier. Si on avait cru qu'on allait se réconcilier, là, il y a un point sur lequel je voudrais vraiment... que vous réfléchissez chacun. Bon, c'est le fameux point de la neutralité axiologique. Hein. Finalement, si on veut vraiment faire de la science, on doit être extérieur au phénomène. Sinon, si on est dedans, regardez en médecine, le double aveugle. Ah oui, votre formidable, hein, le médicament que vous allez trouver, il marche avec des effets fantastiques. Vous avez guéri tout le monde. Vous aviez, hein. Bon, donc on impose le double aveugle qui change complètement les choses. Donc, la neutralité axiologique, c'est la science. La participation, ce n'est pas la science. Alors que nous sommes un certain nombre de gens à avoir ici dit ou fait presque dans nos travaux en disant non, nous sommes dans une perspective de participants. Hein, nous proposons une autre perspective. Alors, il faut vraiment justifier ça parce qu'on est alors les seuls. Eh bien, et si c'était, ce n'est pas le seul à mon avis, mais et si c'était effectivement un point que les juristes, plutôt que de repartir honteux, on a été participants, hein, assumaient un peu comme ce qu'ils peuvent apporter, effectivement, au développement d'une connaissance. Et on renoncera volontiers aux mots sciences, parce qu'on n'est pas prétentieux, parce qu'effectivement, alors on laissera. Mais à la connaissance qui est qu'effectivement, quel est l'intérêt d'une perspective de participant ? D'une part, elle permet de renoncer à une prétention, la prétention d'une perspective de survol. Parce que qui voit les phénomènes actuels globaux du point de vue global ? Le fameux point de vue de Dieu, la neutralité axiologique, c'est le point de vue de Dieu. Personnellement, je suis athée, surtout d'un point de vue épistémologique. Moi, je ne vois que des gens qui sont dedans. Et donc, c'est bien prétentieux de prendre cette perspective de neutralité axiologique que les Kelséniens ou d'autres aiment bien nous ramener. Nous sommes tous des participants, il n'y a pas de perspective de survol. Ensuite, ça permet une perspective d'engagement. C'est-à-dire qu'on vous décrit le droit, à un moment vous allez dire, ben, alors vous y adhérez donc puisque vous le décrivez. Très bizarre, hein, avec le droit vous aurez toujours cela. Dès que vous décrivez un phénomène, on va vous dire que vous y adhérez. Pourtant, si vous faites une thèse sur les chambres à gaz, on ne va pas vous traiter de nazi. Mais si vous parlez du droit global et que vous êtes juriste, on va dire, mais c'est scandaleux ce que vous préconisez. Même si vous avez dit auparavant, j'ai fait cette expérience pendant des années dans les conférences. Premièrement, je vais vous parler d'une chose, attention, ça ne veut pas dire que je l'approuve, etc. Je fais ma petite conférence, c'est scandaleux, vous êtes un ultralibéral, etc. Comme ça. Pourquoi ? Ben c'est intéressant là-dedans. Ça veut dire qu'on est engagé par ce qu'on dit. Hein, il y a des propos intéressants là-dedans dans Dworkin. On prend, en fait, même, vous l'avez dit, vous êtes plusieurs à l'avoir dit, ce discours doctrinal dans lequel, finalement, on prétend faire ce qu'on est pourtant incapable de faire, c'est-à-dire qu'on fait du droit. On est considéré comme faisant du droit quand on le dit. Hein, j'attire l'attention sur le fait qu'en droit comme en économie, il n'y a pas deux mots différents pour décrire les phénomènes et la science qu'on prétend, on a renoncé au mot de science, le discours que l'on prétend tenir sur lui. Et si c'est le fait que c'est le même mot, donc Maintenant, évidemment, on trouve la science juridique, ce qui est beaucoup plus dans les CNRS, etc. Mais bon, les gens normaux disent le droit pour les deux. On a une faculté de droit et on a du droit. Bon. Hein? Et si ce même mot n'était pas une faiblesse, si elle manifestait quelque chose qui tient à cœur du pragmatisme, c'est-à-dire, et qui tient à cœur de beaucoup de choses qu'ont dit Jean-Sylvestre sur cette intervention, y compris avec l'enfant de 4 ans, très fort, pensez à Dewey, c'est ce processus, souligner ce processus absolument continu entre la connaissance et l'action, hein, dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on est engagé dans une action qui nous renvoie des informations, en gros, on se prend une claque, qui va corriger, si j'ai bien compris, Gilles L'Huillier, il arrive au Sénégal, il voit tous les contrats, tout est dans les paradis fiscaux, il se dit maintenant, qu'est-ce que je fais? Il arrive à Genève, et si on poussait le devoir de vigilance, on a avancé, etc. Voilà. Alors, est-ce que ce faisant, on fait de la science? Probablement pas, mais il y a une chose qu'on est sûr, c'est qu'on fait du droit. Et ça, c'est notre boulot. Voilà, merci.